Bonjour à toutes et à tous. C'est l'heure de l'actualité locale sur Radio Saint-Ferréol avec le journal Le Crétois. Aujourd'hui en studio, Agnès, Gaspard, Agathe, Fabien, pour faire la lecture de trois articles du journal paru ce vendredi 25 octobre 2024.
Sécurité routière, c'est un sujet drômois. Entretien avec Thierry Devimeux, le préfet de la Drôme, pour faire le bilan de l'opération Carton Rouge. Une série noire. Depuis fin septembre, 6 personnes ont perdu la vie sur les routes de la Drôme. Notre secteur n'est pas épargné. Les routes de Chabeuil, d'Étoile-sur-Rhône, de Loriol-sur-Drôme ou de Die ont connu ces dernières semaines leur lot d'accidents graves. Pour tenter de juguler cette explosion de l'insécurité routière, la préfecture de la Drôme a mis en place entre le 12 et le 20 octobre, une opération baptisée Carton Rouge, ce qui n'a malheureusement pas empêché deux accidents mortels de se produire le week-end des 19 et 20 octobre. Alors que l'automne est une saison particulièrement dangereuse sur les routes, cette stratégie de la dissuasion va-t-elle porter ses fruits? Comment autrement venir à bout de ce fléau? Entretien avec le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux. Le Crétois. Quel bilan tirez-vous de l'opération Carton Rouge ?
J'avais lancé cette opération parce que nous avons eu dans un temps très court, 10 jours, 6 morts, ce qui est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. En réaction, j'ai demandé aux forces de l'ordre de se mobiliser encore plus que d'habitude et de multiplier les opérations de contrôle avec une approche un peu atypique, puisque j'annonçais sur les réseaux sociaux la veille au soir les points de contrôle du lendemain pour essayer de responsabiliser les conducteurs. L'opération a mobilisé 500 militaires de la gendarmerie et 150 policiers. Cela a permis de contrôler à peu près 15 000 véhicules et de repérer et verbaliser 1422 infractions. Un conducteur sur 10, c'est beaucoup. Avec des infractions malheureusement assez classiques, excès de vitesse, alcool au volant, stupéfiant, téléphone. Nous avons procédé à 54 retraits de permis pour les infractions les plus graves.
Êtes-vous surpris par ces résultats ?
Malheureusement pas. Je pensais que les gens allaient se réveiller un peu et faire attention puisque nous avons joué la transparence et n'avons pas pris les gens en traître. Mais non. Nous sommes restés sur un taux d'infraction malheureusement assez classique, avec des infractions classiques, ce qui montre que les conducteurs de ce département n'ont pas pris la mesure de leurs responsabilités et continuent à conduire sans faire attention aux conséquences que cela peut avoir quand on conduit trop vite, avec de l'alcool, des stupéfiants ou un mélange de tout ça. Conduire n'est pas un jeu, c'est un acte qu'il faut faire en responsabilité. Ne pas respecter les règles, c'est prendre le risque pour soi d'être blessé ou tué. Et j'allais dire à la limite, ça ne concerne que le conducteur, mais c'est surtout prendre un risque pour ses passagers et pour les véhicules qui circulent au même moment et au même endroit que vous. Quelqu'un qui double sur une ligne blanche et tombe sur une voiture qui arrive en face, qui est, elle, dans son bon droit, c'est un choc de plein fouet et la personne décède. Nous avons vu un camion qui a donné un coup de volant pour essayer d'éviter le véhicule qui arrivait en face. Le camion s'est couché, a pris feu, et le conducteur est mort brûlé dans sa cabine. C'est un relâchement des comportements qu'on ne peut pas accepter. Que personne ne peut accepter, en premier lieu les familles qui sont endeuillées. Et puis ensuite la société. Dans ce cadre-là, je représente les règles que la société a mises en place pour se protéger collectivement. Ces règles impliquent des contrôles et des sanctions si on ne les respecte pas.
Quelles sont les causes de ces 6 accidents mortels récents ?
Il n'y a pas de cause majeure. Il n'y a pas un âge type, pas un lieu type et il n'y a pas une infraction type. C'est tout type d'infraction, de l'inattention, du non-respect des règles, de la conduite en état d'ivresse, de la conduite avec des vitesses trop élevées. C'est un relâchement quasi général. Les gens ne prennent pas conscience que conduire, c'est dangereux. Il faut être concentré et respecter les règles.
L'année 2024 est-elle pire que les autres ?
Ce n'est pas une année comme les autres, puisqu'on a quasiment 2 fois plus de décès que l'an dernier. Nationalement, il y a plutôt une baisse du nombre de morts, donc on est en complet décalage. C'est un sujet drômois. C'est sur les routes drômoises, fréquentées par des habitants de ce département qui ne font pas suffisamment attention, qui ont des conduites parfois à risque, avec de l'alcool, des excès de vitesse, de la drogue et qui provoquent des accidents. Je le dis avec force, ça ne va pas. Ça ne va pas.
Y a-t-il des axes routiers plus accidentogènes que les autres ?
On ne peut pas dire que ce qui se passe est causé par les routes ne sont pas bonnes, car c'est à mon avis plutôt l'inverse. On a dans le département des routes qui sont plutôt bien entretenues par le conseil départemental. Les routes sont bien tracées parce que la géographie du département le permet, ce qui n'est pas le cas en Ardèche, par exemple. Ici, quand on va à Cré ou à Die, les routes sont de très bonne qualité et ça incite les gens à faire moins attention.
Ce sont de grandes lignes droites qui peuvent être dangereuses.
Il y a des radars, on fait des contrôles tout le temps. La qualité des routes ne renforce pas l'accidentologie, mais elle fait que les gens font moins attention. Souvent, les gens ne se sentent pas concernés car ils estiment qu'ils conduisent bien. Peut-être que vous conduisez bien, mais il faut que l'on fasse tous très attention à notre conduite. Et même quand on ne boit pas, quand on ne se drogue pas, quand on conduit à la bonne vitesse, il faut rester ultra concentré. D'abord parce que le danger peut venir d'en face, mais aussi parce que le danger peut nous surprendre. Parfois sur un trajet qu'on connaît par cœur, qu'on est un peu moins concentré, qu'on a l'attitude qu'il ne faut pas au moment où il ne faut pas.
Depuis quelques années, on constate une forte présence de la gendarmerie sur les routes. La répression fonctionne-t-elle ?
Dans cette politique de réduction des accidents de la route et de la mortalité, du renforcement de la sécurité routière et de la lutte contre l'insécurité routière, il y a bien sûr le volet répressif, pour montrer qu'il y a des règles et qu'elles sont faites pour être respectées. Mais il y a aussi le volet préventif. On met beaucoup d'énergie et d'argent pour former les jeunes dans les écoles, les collèges. En parallèle de ces opérations carton rouge, nous faisons des opérations carton jaune, où justement, on ne sanctionne pas, sauf si les infractions sont graves, où l'on explique aux gens les infractions qu'ils commettent pour les former, pour qu'ils soient conscients de leur mauvais comportement de conducteur et soient mis en responsabilité, pour qu'ils comprennent qu'il faut changer d'attitude. Nous le faisons. Ce sont les deux volets. Et tout de même, ça paye. Depuis plusieurs années, la délinquance sur la route baisse et la mortalité baisse. Sauf cette année où nous avons un regain de mortalité, donc un regain de mauvais comportement routier. Face à ce constat, et c'est un très gros effort que je demande aux forces de police et de gendarmerie, parce qu'elles sont déjà tout le temps sur la route, on a renforcé encore leur présence pour mettre en tension les conducteurs, pour les réveiller.
En automne, il y a souvent plus d'accidents. Après cette opération carton rouge, qu'allez-vous mettre en œuvre pour lutter contre l'insécurité routière ?
J'ai demandé aux forces de l'ordre de maintenir leurs efforts et nous allons continuer à communiquer. L'automne, objectivement, est le moment où la lumière descend plus vite. Quand on part et quand on rentre du boulot, il fait sombre, la luminosité a changé, on ne perçoit plus la route de la même façon, il y a une humidité plus forte, des voitures qui adhèrent moins. Les vacances de la Toussaint sont traditionnellement une période à risque, donc on maintient une très forte pression des forces de l'ordre sur le terrain.
Pensez-vous déployer de nouveaux radars ?
Dans le département, l'accidentologie fait tous les ans l'objet d'une analyse pour regarder s'il n'y a pas des points où l'on constate plus d'accidents, plus de vitesse excessive, etc. Quand on le constate, on essaie d'installer des radars fixes pour protéger les zones sensibles, car les radars font ralentir. On complète cela par des radars mobiles, ces radars de chantier que l'on déplace et qu'on laisse temporairement à des endroits où les gens ne sont pas habitués à les voir. C'est pour leur rappeler que quand la règle, c'est 80 km/h, c'est sur tout le linéaire et pas seulement à côté du radar fixe. Je mets aussi beaucoup l'accent sur les radars embarqués qui ne se repèrent pas. Ils sont dans les véhicules et on peut être pris sans s'en rendre compte. C'est pour faire prendre conscience aux gens.
Souvent, les radars mobiles ne font pas long feu et sont détruits ou vandalisés.
C'est du vandalisme pur et simple. On fait des enquêtes pour déterminer qui fait ça, mais on n'y arrive pas forcément, car c'est dans les campagnes et qu'il n'y a pas de caméra qui surveille tout. Ce sont des gens qui refusent la règle.
On entend parfois dire que les radars sont une manière pour l'État de taxer les gens pour leurs petits délits routiers. Qu'en pensez-vous ?
Des gens le disent, mais il y a une règle, c'est 80 km/h. On peut trouver que ce n'est pas assez rapide, mais c'est la règle qui a été retenue au niveau national. Il y a une règle, si vous êtes en dehors, vous êtes en dehors. Alors quoi ? Il faudrait des radars qui flasheraient sans sanction ? Des gens se plaignent d'être lâchés à 82 km/h, mais ils ne sont pas à 82, ils sont à 87. Pourquoi êtes-vous à 87 ? Vous n'avez qu'à rouler à 80. C'est le principe de la règle. On peut la critiquer, mais c'est une règle qui n'est pas contrôlée et ne sera pas respectée. Par ailleurs, l'argent des amendes ne renfloue pas les caisses de l'État. Il est reversé aux collectivités pour mettre en place des actions de sécurité routière, d'aménagement routier pour réduire la vulnérabilité. Il y a une obligation d'utiliser cet argent pour des actions de renforcement de la sécurité routière.
Les propos ont été recueillis par Martin Chouraki.
Et vous venez d'entendre sur Radio Saint-Féréol un article, un interview du préfet sur la question de sécurité routière avec Fabien dans le rôle du préfet et Agathe dans le rôle de la journaliste du Crétois.
Vélo à Cré, vers l'apaisement. Après des mises en fourrière, des cyclistes ont été reçus en mairie. Laissez-moi finir. Une phrase répétée à de nombreuses reprises le mercredi 24 octobre, de part et d'autre, lors d'échanges parfois tendus entre représentants de la mairie de Cré et cyclistes mécontents. Une première manifestation devant l'hôtel de ville, le jeudi 17 octobre, avait réuni plus de 100 personnes en colère après la mise en fourrière de 7 vélos le vendredi 11 octobre. Ils ont remis le couvert le mercredi 23 octobre et ont pu, cette fois-ci, échanger directement avec le premier adjoint de la mairie de Cré, délégué à la mobilité, Christophe Lemercier, avant qu'une délégation de 5 personnes ne soit reçue par le maire, la maire Stéphanie Karcher. Cette colère, relayée abondamment sur différents réseaux, a rapidement pris de l'ampleur, les usagers du vélo jugeant très brutal la mise à la fourrière de leurs deux roues et la verbalisation qui l'accompagne. 35 euros d'amende et 50 euros pour la mise en fourrière. Alors que le nombre de places de stationnement vélo n'est pas suffisant à créer, ce que la mairie ne conteste pas, ils sont surtout excédés par la méthode et le manque de communication de la municipalité au préalable. La mairie et le chef de la police municipale, Éric Cousin, présent lors de la réunion, argue d'une sensibilisation a été faite pendant plusieurs mois avec la pose d'étiquettes sur les vélos mal garés pour prévenir leurs propriétaires. Mais le motif de ces enlèvements n'a pas du tout de suite été exprimé clairement par la municipalité, ce qui a nourri l'incompréhension entre toutes les parties. En fait, la mairie s'appuie sur deux arrêtés pris en 2022. Le premier stipule que des vélos considérés en stationnement abusif, lorsqu'ils sont garés 7 jours au même endroit, peuvent être mis en fourrière, 7 jours après une mise en demeure. L'autre arrête que le stationnement des vélos hors arceaux et parking est interdit et considéré comme gênant. C'est sur ce dernier arrêté que s'est basée la police municipale pour enlever ces 7 vélos. Devant les manifestants, parfois incrédules, Christophe Lemercier a tenu à rappeler l'existence de cet arrêté, tout en assurant que la mairie de Cré n'appliquait pas une politique anti-vélo et qu'elle était engagée dans le développement des mobilités douces. Il a rappelé, à titre de comparaison, que 1111 véhicules avaient été verbalisés en 2024 contre 9 vélos. Les cyclistes s'étonnent tout de même de la méthode et du timing de ces enlèvements. La pratique du vélo a forcément augmenté à Cré. Il faut évidemment accompagner cette tendance, mais à un moment, ça ne passe plus, a expliqué Christophe Lemercier à la délégation reçue en mairie. Admirons ces roues stables. Stéphanie Karcher, qui affronte là sa première fronde depuis qu'elle occupe le siège de maire en juillet dernier, a dit que son devoir était de concilier les intérêts de tous, parfois par nature contradictoire. Pendant cet échange de plus d'une heure, le ton est parfois monté, mais un dialogue a été ouvert et le climat semble s'être apaisé. Même si chaque camp a pu accuser l'autre d'avoir mis de l'huile sur le feu, tout le monde était d'accord sur un point. Les tensions entre cyclistes d'un côté, piétons et automobilistes de l'autre sont aujourd'hui trop inquiétantes. « Personne ne veut d'un pôle à Cré », a répété la maire en référence à Paul Vary, jeune homme de 27 ans mortellement écrasé par un SUV à Paris le 15 octobre. Pour répondre aux demandes des manifestants, Stéphanie Karcher a assuré que la police municipale ferait part de discernement. Elle n'enlèvera plus les vélos garés sur du mobilier urbain, sauf s'ils gênent manifestement le passage d'une poussette, d'un piéton ou d'une voiture. Du côté des équipements, la ville attend pour l'été 2025 du matériel de la communauté de communes pour faire passer le nombre de places de stationnement à un peu plus de 1000, contre 624 aujourd'hui. En attendant, la mairie s'est donc engagée à dégager un budget pour installer 2 poches de stationnement pour une 30aine de places minimum. Stéphanie Karcher a aussi annoncé que des étiquettes plus pédagogiques seraient apposées sur les vélos mal garés. Enfin, les cyclistes ont été invités à la prochaine réunion de l'agenda 21 en novembre, qui aura pour thème le partage de l'espace public. Par contre, la maire a bien précisé qu'il était impossible d'annuler les amendes, même si les concernés pouvaient les contester. et il n'est toujours pas question d'abroger l'arrêté municipal de stationnement gênant. Pour Virginie Bernat, l'une des porte-paroles de cette mobilisation à l'origine du site web « Touche pas à mon vélo, super site », c'est bon, c'est un bon signal de Christophe Lemercier, soit descendu nous rencontrer, plus que la maire nous ait reçu. La situation s'apaise et la mobilisation s'arrête. Mais nous allons rester très vigilants et nous n'hésiterons pas à la reprendre si nous constatons que la mairie ne tient pas ses engagements à suivre donc. Article de Clément Chassot.
Faubourg 26 tire définitivement le rideau. L'association qui anime le théâtre de Saillant manque de financement. C'en est fini de Faubourg 26, enfin presque. Le samedi 19 octobre, cette association qui anime le théâtre du Temple de Saillant depuis une douzaine d'années s'est réunie en assemblée générale extraordinaire pour prononcer sa dissolution. Faute de quorum, l'assemblée a été reprogrammée au 8 novembre. Mais quoi qu'il en soit, les dés semblent définitivement jetés. Les adhérents de Faubourg 26 se sont prononcés vendredi dernier en faveur de la dissolution, 20 voix pour et 2 abstentions, et il fait peu de doute que le vote sera le même le 8 novembre, l'assemblée aura lieu au Théâtre du Temple à 17h30. C'est une triste nouvelle pour les habitants de la commune de Saillant et, au-delà, pour ceux des communes alentours, car Faubourg 26 proposait une programmation théâtrale de haute volée tout au long de l'année, autour d'un principe simple, les zones rurales ont droit à la même qualité de programmation culturelle que les centres urbains. Et là, cette belle ambition avait un coût, et la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas souhaité prendre sa part. C'est en tout cas ce que dénonce Maurice Yent, président et directeur artistique de l'association. Comme nous vous le racontions dans notre édition du 20 septembre en 2023, la région a cessé de verser une subvention de 6 000 euros à Faubourg 26, creusant un trou abyssal dans ses finances et contraignant l'association à mettre la clé sous la porte. Une explication que conteste formellement la région. Sollicité, son service de presse nous a assuré que la faute revenait plutôt à Faubourg 26, qui lui aurait remis une demande de subvention incomplète. Une accusation qui indigne Maurice Yent, j'ai plutôt l'impression que le service culture de la région a été débordé et que l'instruction des dossiers n'a pas été correctement suivie, qu'une demande de subvention soit rejetée. Cela peut s'entendre, mais nous n'avons pas eu d'explication. On ne nous a même pas dit quelle pièce manquait. Le tout est-il confus ? Le président du théâtre doit cesser de penser que les subventions sont des rentes et doit veiller à effectuer ses demandes avec attention, cingle pourtant la région. C'est affligeant, déplore l'intéressé. Je n'ai jamais pensé cela. Un dernier espoir a pourtant émergé cette semaine pour l'association Faubourg 26. Sollicité par le Crétois, le conseiller régional Claude Orias nous a assuré que l'exécutif régional envisageait de verser une subvention exceptionnelle équivalente aux 2 années de subvention non perçues pour éviter que l'association ne ferme. Une information qu'a malheureusement démenti la région dans la foulée, supposant que cette fausse information était à mettre sur le compte d'une confusion dans les dossiers, imputée à M. Orias. C'est affligeant, répète Maurice Yent, c'est la fuite permanente plutôt que le débat. Un article de Martin Chouraki.
Un mois pour sensibiliser au cancer du sein. L'opération Octobre Rose mobilise de nombreux acteurs dans la vallée. Il y avait foule le mercredi 23 octobre devant le centre hospitalier de Cré. À l'occasion d'Octobre Rose, la campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein, les personnes de l'hôpital ainsi que 2 associations dédiées à la lutte contre cette maladie organisent une journée d'information à destination du grand public. Dans la matinée, l'équipe de radiologie du centre hospitalier a fait visiter le mammographe installé il y a 2 ans à Cré. Un équipement indispensable qui est particulièrement sollicité par les habitants du secteur, en particulier pour des dépistages de cancer du sein. L'après-midi, Nathalie Roche et Emmanuel Wilken, les deux sages-femmes du centre hospitalier de Cré, ont animé des ateliers de palpation, un outil de dépistage indispensable. Cette journée de sensibilisation fut aussi l'occasion pour l'association d'agir pour le cancer 26 et pour l'antenne crétoise de la Ligue contre le cancer de diffuser de l'information sur cette maladie et notamment de rappeler l'utilité du dépistage du cancer du sein, car plus on le détecte tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Le cancer du sein est à la fois le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Près de 80% des cas se développent après 50 ans. Un article de Martin Chouraki.
Vous venez d'écouter 4 articles du journal Le Crétois du vendredi 25 octobre 2024, lus par Agnès, Gaspard, Agathe, Fabien, Sarah la technique. Retrouvez l'intégralité de ce numéro chez votre marchand de journaux sur abonnement ou sur le site le-crétois.fr. À la semaine prochaine.